Stop, c'est parti.
Regardez-moi la télé.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes m'intéressent.
You are fake news.
Hello.
Alors, il est très précisément 9h41 sur France Inter. Soyez les bienvenus dans l'Instant M.
Vous êtes en direct, allez-y.
Mon invité Bruno Patino dirige les programmes français d'Arte après avoir chapeauté ceux de Tout France Télévisions mais aussi de France Culture et puis il est passé par Le Monde et par Télérama. Partout, partout, il a cassé la tête de ses équipes, des journalistes et du public avec la révolution numérique. Pendant des années, il a évangélisé. Et là, qu'est-ce qu'il fait ? Là, il commet un livre très sérieux et très documenté pour nous expliquer que le web, les réseaux sociaux, les applis nous rendent délibérément accros et quasi débiles mentaux. Transformant l'humanité en poisson rouge, incapable de fixer son attention, notre intention, hein, au-delà de 8 secondes, déjà attiré ailleurs, passé cette toute petite durée. Tout cela en vertu d'un modèle économique qui ne cherche que cela, attirer, voler, capturer notre attention, nous visser le plus longtemps possible devant un écran où tout défile et change constamment. C'est un désastre. Et c'est Patino qui dit cela. Soit cet homme est un traître, soit il a été trahi.
L'Instant M. Sonia de Villers sur France Inter.
Traître ou trahi, c'est la question du jour. Bonjour Bruno Patino.
Bonjour Sonia de Villers.
Voilà, je sens que je vous ai assommé. La civilisation du poisson rouge, petit traité sur le marché de l'attention, paraît chez Grasset. Je précise que vous dirigez l'école de journalisme de Sciences Po. Donc en plus, vous parlez à de jeunes et futurs confrères et les programmes d'Arte en France, je l'ai dit. Je vous passe un petit son, vous allez voir, ça va rendre immédiatement accro la moitié de nos auditeurs. Voilà, ça c'est la bande-son de Candy Crush, sur lequel la moitié de l'humanité joue sur son smartphone entre deux arrêts de bus et entre deux réunions au bureau, et pendant que les pâtes cuisent ou que les œufs à la coque sont minutés. Candy Crush, vous l'expliquez, c'est un jeu qui n'est jamais trop facile, qui n'est jamais trop difficile, qui est fait pour qu'on y joue quasiment de manière hypnotique, quasi automatique, en fait qu'on y reste le plus longtemps possible. Vous repartez, Bruno Patino, du côté des théories comportementales utilisées par les casinos, puis par les réseaux sociaux, mais qui finalement ont été mises au jour à Harvard dès les années 30.
Oui, je reviendrai hein, sur trahi ou
oui, oui.
ou traître. Mais si on parle de ça, c'est très juste. Il y a une expérience qui a eu lieu en 1931 oui. À Harvard, effectivement, où on... Vous savez, on avait l'habitude de demander à des souris qui étaient enfermées dans des espèces de petites caisses d'appuyer sur un bouton pour obtenir de la nourriture. Et on s'est aperçu que quand la nourriture n'était pas distribuée de façon automatique, alors la souris devenait comme folle et appuyait en permanence sur le bouton, qu'elle ait faim ou pas. C'est-à-dire qu'en gros... Quand la récompense est ce qu'on appelle aléatoire,
c'est ça.
Ça n'est plus vous qui contrôlez la machine, mais la machine qui vous contrôle.
C'est ça. Il faut que la récompense soit irrégulière. Elle vous met en état de servitude psychologique. Elle vous met en état finalement d'addiction. Et vous vous dites tout le web aujourd'hui est architecturé pour ça ou presque.
Non presque parce que. Je vais revenir à ça. Je crois toujours, moi, au projet numérique. Je crois toujours à la possibilité et à la réalité, d'ailleurs. Et j'essaie d'y travailler, de partager de l'information, de la culture, du débat de façon universelle. Je crois toujours en l'économie du partage. Mais, et c'est un grand mais, je constate qu'une grande partie du web, en tout cas une grande partie de celles qu'on utilise, nous, cette plateforme ou ailleurs, par des soucis économiques... organise tout ce besoin en vue de capter notre attention le plus possible. Et donc, on fait appel effectivement aux neurosciences pour essayer de voir avec quels outils ils pouvaient, en mariant les neurosciences et les data personnelles, capter le plus possible notre attention, c'est-à-dire nous rendre effectivement addicts.
Addicts, voilà. Vous qualifiez des symptômes avec des noms qui font terriblement peur, les dormeurs sentinelles, les nomophobes, les fnubistes, ça c'est nous tous en proie à des syndromes d'anxiété, à la tasa, Agoraphobie. Voilà, vous n'allez pas nous les expliquer. Les lecteurs vont les découvrir et vont être terrifiés. Ils vont se dire qu'ils passent beaucoup trop de temps sur leur smartphone et surtout qu'ils laissent leurs enfants beaucoup, beaucoup trop longtemps devant les écrans. Est-ce que vous n'enfoncez pas un peu les portes ouvertes, Bruno Patineau, vous qui dirigez des programmes depuis des années et des années à la télévision? Est-ce que depuis la privatisation de TF1, vous, homme de télévision, avec vos producteurs et vos animateurs, vous ne faites pas exactement la même chose? Est-ce que vous ne construisez pas depuis 30 ans des séries, des journaux télévisés, des grilles de programmes entières pour capter l'attention du téléspectateur, pour qu'il ne zappe pas, pour qu'il reste le plus longtemps possible avec vous, quitte à accélérer le rythme de ce qu'il regarde?
Alors, c'est une très bonne question. Encore une fois, le numérique n'invente pas l'économie de l'attention. Mmh. L'économie de l'attention, elle s'invente sans doute au début du XXe siècle. Mmh. Effectivement, lorsqu'en gros, les médias audiovisuels permettent de passer d'une attention qu'on pourrait capter, dire de spatiale, c'est-à-dire je lis un journal à un moment, à une attention temporelle. J'essaye d'attirer votre attention devant un poste de radio, puis devant un poste de télévision. Mais il y a beaucoup de différences par rapport à ce qui s'est passé. Nickel. La première différence, c'est que les outils comme la télévision par exemple, vous êtes un temps limité devant eux. Alors certes, ce temps peut augmenter, mais malgré tout, comme c'est des outils non mobiles à un moment ou un autre, ils occupent un temps donné de votre existence.
C'est-à-dire, quand on n'est pas dans le salon, on n'est plus devant la télévision.
On n'est plus devant la télévision. Mmh. Or, les médias numériques, à un moment, par leur mobilité, par le fait qu'ils sont tout le temps disponibles, eh bien finalement, ils gagnent du temps sur le temps. Mmh. Et à un moment donné, je dis dans ce livre qu'un cabinet d'études américain a montré que si on mettait bout à bout toutes nos activités quotidiennes, nos journées faisaient 30 heures. Moi, je me suis livré au calcul en ce qui me concerne et j'étais beaucoup plus inquiet parce que mes journées font 34 heures. Ouais. Et pourquoi ? Parce que ces outils numériques nous permettent justement de faire autre chose pendant qu'on faisait déjà quelque chose. Mmh. Alors quand c'est du temps de transport, c'est pas grave, c'est du temps gagné, on va dire, sur du temps mort. Quand c'est du temps de travail, quand c'est du temps de famille, quand c'est du temps de sommeil, quand c'est du temps d'amour, quand c'est du temps de prière, quand c'est du temps de réflexion, là, ça commence à envahir nos vies. Et effectivement, si vous mariez ça avec les neurosciences, c'est-à-dire si vous faites en sorte que ça soit... vous savez, cette science qui s'appelle la captologie, en fait, c'est-à-dire d'essayer au mieux de capter votre attention en utilisant les neurosciences et les données personnelles et comportementales qu'on a sur vous, eh bien, on gagne du temps sur un temps que vous occupiez déjà à autre chose. Et je pense que la grande différence, elle est là.
Alors voilà, tout est là. La collecte universelle des données personnelles et la capacité qu'ont les algorithmes à les retourner contre nous. Il est là tout le cœur de votre ouvrage. C'est-à-dire que justement, on est passé de médias de masse, la télévision, la radio dont vous venez de nous parler, la presse à grand tirage, à des médias qui sont capables de s'individualiser pour chacun de nous en fonction de nos envies, pensons-nous, de nos besoins, pensons-nous, en fonction finalement de nos profils, nous expliquez-vous, nos profils pour que chacun de nous y reste le plus longtemps possible.
Oui, ce que j'essaye de dire en fait, c'est une chose assez simple. Oui. C'est que, et ça, peut-être ça va vous paraître une évidence, mais... aujourd'hui, évidemment, tous les réseaux sociaux sont dans les débats politiques. On constate ce qui se passe dans l'espace public, dans l'espace démocratique, même dans l'espace informationnel, par le biais de ce qui se passe sur la plupart des réseaux sociaux. Et moi, je dis juste que si vous supprimiez, je dis pas qu'il faut le faire, mais si vous supprimiez la publicité de ces réseaux sociaux, c'est-à-dire le fait qu'ils doivent effectivement monétiser leur activité sur la captation de notre attention, ils ne ressembleraient pas du tout à ça. C'est-à-dire que quand on me dit que Facebook est le miroir de la société française ou de la société internationale,
non,
c'est un miroir
pas.
Déformé par une économie donnée. Donc c'est un miroir qui est organisé par le souci d'une rentabilité économique publicitaire. Et cette rentabilité économique publicitaire, elle est due à quoi ? Enfin, elle est nourrie de quoi ? Elle est nourrie du temps qu'on passe sur ces réseaux, et donc de notre attention. Et de notre attention gagnée la plupart du temps sur un temps déjà occupé. Voilà ce qui se passe.
Je vais vous faire écouter Berners-Lee. Berners-Lee, c'est le père de l'Internet. Il a rejoint, comme vous, toute une cohorte de pionniers. Alors vous n'avez pas été fondateur du réseau. Vous avez été parmi les premiers à évangéliser et à y croire beaucoup. Et qui aujourd'hui se sont, presque retournés contre leur bébé.
30 years ago, Il y a 30 ans, j'ai proposé une idée vague mais terriblement excitante, un espace ouvert à tous, gratuit pour toute l'humanité, avec un objectif, partager du savoir et des idées. Aujourd'hui, la moitié de l'humanité n'est toujours pas connectée, mais ceux qui le sont trouvent que nos sentiments et nos droits ne sont pas protégés, ni respectés. Le combat pour le web que l'on veut est l'un des plus grands combats de notre époque.
Bruno Patino, vous en citez plusieurs, l'utopie initiale est en train de mourir, tuée par des monstres auxquels, sans le savoir, elle a donné raison. Et dans le monstre, dans la monstruosité, il y a l'émergence d'un nouveau capitalisme. Vous le dites, vous le nommez ce nouveau capitalisme. C'est l'économie de l'attention qui est le produit, vous le racontez très bien et vous avez commencé à l'expliquer, de la rencontre entre la collecte de ces données personnelles et les algorithmes.
Oui, c'est en fait ça, c'est les outils. Oui. Parce qu'encore une fois, les données personnelles, elles ne valent quelque chose que quand elles sont mises en relation avec d'autres données personnelles.
Hein.
Et c'est la capacité justement d'en extraire de l'intelligence qui donne ces algorithmes. Oui. Mais après, les algorithmes, on peut les diriger absolument comme on veut.
Oui.
Un algorithme, c'est une formule mathématique, in fine, qui peut servir à une chose ou à une autre.
Mm-hmm.
Or, aujourd'hui, encore une fois, par la nécessité, et d'ailleurs ces plateformes ne l'ont pas voulu au départ.
Mm-hmm.
J'essaie de raconter dans le livre comment il y a eu une sorte de tâtonnement, comment un moteur de recherche, à un moment donné, Google cherche à vivre économiquement de la fonctionnalité qu'il met au jour, et puis comment, de l'autre côté, une plateforme comme Facebook, qui met en relation les gens, se dit il faut bien vivre et faire de l'argent avec ça, c'est le modèle qu'il veut. Et petit à petit, donc ces algorithmes-là, on les tourne, en tout cas sur ces plateformes-là, et pas partout hein, dans l'univers numérique, sur la captation de notre attention.
Voilà. Et vous dites la première conséquence du primat donné à l'économie de l'attention, c'est que le marché de l'information est soumis à cette nouvelle loi, et régi par l'économie du doute. C'est très intéressant parce que vraiment c'est toute une relecture de l'explosion des fausses informations, des rumeurs, de l'indésinformation sous toutes ses coutures, en disant attention, tout ça a des fondements économiques et seulement économiques.
Pas seulement économique, mais grandement économique. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez prendre une chose qui est extrêmement simple. Parce qu'en ce moment, dans tout le débat sur les fausses nouvelles ou ailleurs, vous avez toujours l'idée qui n'est pas fausse. Que ces fausses nouvelles sont dues, entre guillemets, à des mauvais acteurs.
Mm-hmm.
Que ce soit des puissances étrangères, des gens qui souhaitent désinformer, etc. Mm-hmm. Ça n'est pas faux. Mais ça n'est pas totalement vrai. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui se passe, c'est que dans de certaines plateformes qui sont régies par l'économie de l'attention, Facebook ou ailleurs, l'efficacité économique d'une information sérieuse et rationnelle est inférieure à l'efficacité économique d'un message outrancier de quelque nature qu'il le soit.
Expliquez-nous ça, parce que c'est très important.
Alors, je vous explique ça, ou au moins j'essaye, comme j'essaye de le faire dans le livre. Pour que un message soit efficace dans les plateformes régies par l'économie de l'attention, il faut d'abord qu'il soit partagé vite, qu'il soit partagé par de nombreuses personnes et qu'il justement arrive à vous faire cliquer, liker, partager, peu importe l'action que vous faites, alors même que vous êtes soumis à des stimuli permanents et réguliers. Quand vous avez un message qui s'adresse, on va dire, à vos tripes, à la partie la plus émotionnelle, qui est la vôtre, qui peut être la colère, l'enthousiasme, tout ce que vous voulez, par rapport à ça, à vos croyances, le plus profond de vos croyances, sa viralité va être beaucoup plus forte qu'une information rationnelle. Par ailleurs, de l'autre côté, ce genre de message, outrancier ou ailleurs, est beaucoup moins cher à produire qu'une information rationnelle qui demande du travail. Et en plus, elle se produit plus vite.
Donc vous dites le chaos éditorial masque en fait un ordre économique.
Exactement.
Ouais.
C'est-à-dire sur ces plateformes-là, j'entends, sur ces plateformes-là, l'information rationnelle part désavantagée dans la course à l'attention.
C'est ça.
Et elle est structurellement désavantagée.
Ouais.
Et c'est là où, à un moment donné, il faut réfléchir au fait de dire exclure les mauvais acteurs, filtrer les messages, etc. Ça n'est pas s'adresser au cœur de la question, qui est comment je rééquilibre à un moment donné cette compétition. Je fais un rappel à cette utopie qui existait, ou au moins cette théorie qui existait aux États-Unis du marché libre des idées.
Ouais.
C'est-à-dire dès la Constitution constitution des États-Unis. Jefferson dit, voilà, la vérité n'a pas à avoir peur du mensonge parce qu'elle finit par toujours par triompher. Et donc, quand les messages de vérité et l'information sont au milieu des messages de mensonge, c'est la vérité qui l'emporte. D'où le premier amendement aux États-Unis, d'où le fait de dire laissons la libre compétition des idées puisqu'à la fin, la vérité, le rationnel l'emporte. Eh bien, sur ces plateformes-là, la vérité, en tout cas le rationnel, une information sérieuse et rationnelle, est structurellement désavantagée et ne peut pas l'emporter.
Et ne l'emportera jamais. Aujourd'hui, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances, refuse d'abdiquer face aux profits réalisés par les géants du web américain. Il se lance dans un grand combat législatif pour taxer les géants américains du web. Vous vous dites, oui, il faut redistribuer les revenus. Mais en fait, il faut redistribuer le temps qu'ils nous volent et qu'ils capturent. Comment pourrait-on faire pour redistribuer ce temps capturé par les écrans ?
Alors, un petit point déjà. Vous avez tout à fait mentionné l'autre tout à l'heure que les médias s'adressent à l'économie de l'attention.
Oui.
On aurait pu dire les casinos s'adressent à l'addiction.
Oui.
Mais tous ces secteurs sont régulés.
Oui.
Tous ces secteurs, à un moment ou à un autre, ont à un moment donné été en discussion avec le régulateur, le législateur, peu importe, pour organiser, on va dire, la façon dont ils s'adressaient soit à nos addictions, soit à notre attention. En ce moment, et c'est pour ça que je pense qu'il est important d'écouter les gens comme Tim Berners-Lee, en ce moment, le combat, il est là.
Ouais.
C'est-à-dire, est-ce que vous laissez un secteur totalement dérégulé en disant finalement, la seule façon à laquelle je m'adresse à lui, c'est de demander une redistribution de ses profits colossaux ou est-ce que vous dites à un moment donné...
Sur quoi fait-il ses profits ?
Exactement.
Sur quoi fait-il ce profit ? Sur le temps qu'il nous
exactement.
Prend.
Exactement. Et donc je me dis, la redistribution collective, c'est bien,
mais
la maîtrise. Paradoxalement, je pense...
Comment leur imposer des pratiques saines, des pratiques éthiques ? Vous vous dites que c'est des mesures de santé publique, c'est des mesures de libération de chacun d'entre nous.
Alors, deux choses.
Ouais.
La première, je pense qu'il y a un intérêt à le faire rapidement.
Ouais.
L'autorégulation ne marchera jamais. Pourquoi ?
Ouais.
Parce qu'elles sont en compétition les unes avec les autres. Donc si l'une s'autorégule, les autres vont, vont prendre de la part de marché. En même temps... je pense par ailleurs que leur modèle s'épuise petit à petit parce que c'est de plus en plus difficile.
Alors comment leur imposer ? Leur imposer quoi ? On leur demande quoi ? C'est votre dernier mot. Qu'est-ce que vous attendez ?
J'attends deux choses.
Ouais.
De la part collective, une effectivement régulation, enfin en tout cas de les amener à séparer les types de messages, à réguler les types de messages, à équilibrer les types de messages et donc à discuter de la nature même de la façon dont ils organisent cette information là. La deuxième chose, c'est qu'il y a certains outils neuropsychologiques dont l'utilisation doit être proscrite.
Allons-y. Dont l'utilisation doit être proscrite. Pour changer le web et pour que nous ne devenions pas tous des poissons rouges qui tournent dans leur bocal, vous allez lire La civilisation du poisson rouge, petit traité sur le marché de l'attention. Ça vient de paraître chez Grasset. Merci Bruno Patino.
Merci Sonia de Villers.